Salut, c'est Champ Libre. Une fois par mois, et c'est la dernière fois de l'année, Champ Libre... comme on l'appelait déjà, un champ libre mensuel, un champ libre cinématographique, musical et métal.
Best
avec,
guest.
Avec des invités.
Best guest, ouais.
Alors, j'ai suivi une proposition qui m'a été faite par la miss du groupe.
Par la feignasse de service qui voulait
voilà,
pas faire une chronique.
Qui n'avait pas envie de préparer une chronique et qui m'a dit « Et pourquoi on ne ferait pas un best-of de l'année 2014-2015 ?»
Voilà, sachant l'idée... qu'on en fera un fin 2015 ouais, aussi, tu vois.
Ouais. L'idée était bonne.
Ouais.
Donc on l'a conservée. Alors ce soir, Jo nous parlera de ces films de l'année.
Oui.
On en profitera pour parler des nôtres et
oui.
Puis pourquoi pas des sorties DVD.
Damien,
qui tient absolument à faire notre éducation métallique ou métallienne.
Bah oui. Toujours. Métalleuse, je dirais.
Métalleuse. Ah, je ne savais pas quel était
le
bon qualificatif. Carole, qui mange trop, nous parlera de musique.
La bouche pleine, bien
sûr. La bouche pleine. Et Laurent, bien sûr, fera très, très attention. Et on aura une technique irréprochable ce soir. Voilà. Non, mais ton micro est coupé, donc déjà, voilà.
On ne
peut pas
sourd.
Parler. Donc, vous avez compris, un best-of champ libre. Et un best-of qu'on va commencer tout de suite en interviewant Carole et en lui demandant ce qu'elle a bien pu mettre en tête de liste dans son best-of.
Alors, c'est pas tout à fait la tête de liste que je vais présenter tout de suite, puisqu'on m'a demandé de sélectionner deux titres.
Ben oui.
Oui, mais après ben je me suis dit, je vais pas quand même abuser.
T'as quand même pas l'émission entière pour toi.
Non, je vais pas abuser, je vais pas présenter des titres d'albums que j'ai déjà chroniqués, parce que ça sera un petit peu gonflé de ma part.
Why not?
Mais bon, on va essayer de faire un petit effort. Donc... Une grosse sortie en début d'année qui était pas du tout gagnée d'avance, c'était celle de Blur, donc groupe emblématique de la scène anglaise, n'est-ce pas, cher Damien?
Ah oui, problème générationnel.
Problème générationnel, tout à fait. Donc ça, on va pas reprendre le petit fight sur Oasis et Gallagher,
non.
Mais on va dire que c'est un petit peu le même topo, c'est vraiment générationnel. Blur, on les attendait plus sur un album. Ils étaient constamment en tournée et piégés malencontreusement sur une tournée en Asie, ils ont décidé de faire un album. Donc quelle bonne idée. Sur vraiment les idées de Coxon, c'est surtout un album de Coxon. Et au final, c'est plutôt réussi. On n'attendait pas grand-chose de Blur. C'est un album qui n'est pas non plus une énorme surprise, étant donné qu'on est vraiment sur la mouvance de ce qu'ils ont pu faire avant. Après, ça s'écoute très bien. On a le côté nostalgie qui passe. Et
puis qu'on vit des temps où les gens ne sont plus capables de s'extasier sur un bon album. Ça devient quelque chose de banal.
Moi, je trouve qu'ils sont en train de virer
comme les Beatles à la fin de leur carrière. C'est-à-dire nous faire un truc qui n'est plus du rock et qui est vachement plus intéressant.
Je pense qu'ils n'ont plus rien à prouver, tout simplement. Donc ils
font
plaisir. Et
de la musique.
Ils font plaisir avant tout, donc il y a plein d'influences.
Et
donc le single qui est sorti de cet album qui s'appelle The Magic Whip, donc j'ai choisi de vous présenter le single, qui s'appelle Lonesome Streets.
Secret City. come to. Or where it was. Another hot spot. Uh-oh. Crossing on the guillotine. That time again, and June will be over soon again. So get yourself up, get a passport on your way. It's nothing to be ashamed of. Taking off again, the 5:14 to East Green State.
Magic Whip, c'est le titre de l'album et c'est le premier choix. C'est pas la liste du top, je sais plus quoi, de Carole.
Au moins 10.
Au moins 10.
Au moins 10.
Tu as d'autres albums qui ont marqué
albums.
Ton année.
En fait, c'était plus des coups de cœur et des surprises des personnes qu'on n'attendait pas ou qu'on n'attendait plus. Et en l'occurrence, il y a forcément Björk qui va passer par là. Donc, elle a sorti son dernier album, Vulnicora, en mars. Björk, pour moi, parce que voilà, on va parler surtout de mes goûts, là, si ça vous dérange pas. C'était une artiste que j'ai beaucoup admirée, mais qui m'a énormément déçue parce qu'elle s'est perdue dans vraiment ses concepts psyché, électro, machin, truc. Enfin, après, elle a perdu son âme au final et c'est devenu, pour ma part, un peu inaudible, surtout sur Biophilia. Donc j'avais un petit peu snobé ce qu'elle faisait et cet album, j'en avais entendu parler. J'ai mis un peu de temps à essayer d'écouter, voir ce que ça donnait. Et au final, je me dis, bon, allez, pourquoi pas. On va, par curiosité, déjà voir ce que ça donne. Et effectivement, ça a été plus une immersion.
Il est écoutable.
C'était très émouvant. Non, il est plus qu'écoutable, c'est-à-dire que c'est une réelle surprise. C'est une artiste qui a su rebondir sur beaucoup de choses. Et au final, sa séparation avec son très cher et tendre n'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça, parce que du coup, elle s'est retrouvée artistiquement. Elle a réussi à faire un album qui est très émouvant, très beau, et du coup, très percutant, avec toujours sa patte à elle. Et au final, ça reste toujours très élégant.
Donc le Björk.
Le Björk Vulnicora est une très belle surprise. Donc moi, je me suis attachée surtout à ce qui est sorti depuis janvier, parce que voilà, on va faire les découpes en deux parties. Ensuite, très bel album, c'est toujours Dominica qui nous sort des petites perles à chaque fois. Donc ça fait partie des artistes francophones qui auront toujours cette capacité et cette faculté à se surpasser à chaque album. Les textes sont toujours aussi beaux, la musique est toujours aussi belle, l'orchestration est magnifique, toujours autant de poésie, d'émotion. Il passe à Fourvière d'ailleurs, je crois qu'il va... J'ai plus la date exacte, mais...
C'est passé.
Il est passé. J'espère que c'était bien.
Éléor,
donc c'est le titre de l'album.
Qu'on entend dans le champ libre.
Qu'on a beaucoup entendu dans le champ libre et ailleurs. On l'entend encore.
Ouais.
Non, je suis super contente pour lui parce que c'est un artiste qui a longtemps été snobé par la presse, par l'intelligentsia. Alors franchement, ça fait partie vraiment des perles d'auteurs-compositeurs français. Ensuite, rien à voir. J'ai adoré l'album perdu de Marilyn Manson. C'est pareil, c'était un artiste que j'avais complètement mis au clou depuis son terrible album Mopsine, qui était une daube infâme et commerciale à souhait. Donc je n'avais plus forcément accordé de crédit jusqu'à la sortie de The Pale Emperor, où effectivement, sur toutes les interviews et autres, il a bien exposé le fait qu'il avait vendu son âme au diable pour pouvoir sortir cet album. Effectivement, il l'a fait, il l'a très bien fait. Et ça reste vraiment un carton plein parce qu'on retrouve ce qu'il a eu fait sur les premiers albums sans le côté ultra commercial et lèche-cul qu'il a pu faire sur la fin. Donc très bon album.
Manson,
ça c'est fait. On enchaîne avec un album que t'as pas trop sur lequel t'as pas trop accroché mais qui j'ai trouvé très bon.
Il y a un doux avengeur qui se prend vers moi.
C'est le Gascombe que j'avais chroniqué effectivement pour Chant Libre. Son premier album n'était pas une sincère réussite. C'est le mec de Supergrass pour resituer. Et donc, il revient avec Matador, son deuxième opus, qui est très beau, très recherché aussi musicalement parlant, où il va un petit peu investir différents domaines, que ce soit l'électro, que ce soit du rock, de la trip-hop. Et ça donne un magnifique album. Donc, le Blur, The Magic Whip, on vient de vous passer un petit extrait. The Father John Misty avec son superbe Honey Bear, qui reste une folk très douce. Vraiment, il passe, je crois, à l'épicerie moderne au mois de novembre. Donc, je pense qu'on en reparlera à Chant Libre, parce que je pense que c'est une date à faire, et sur scène, ça doit être très plaisant.
Oui, et puis quelqu'un d'un peu secoué, quand même. Donc,
il faut au moins
hyper
ça.
Intéressant,
il faut au moins ça.
Ah bah oui, sinon, il ne passe pas dans Chant Libre,
drôle.
Le mec.
Alabama Check, je ne sais plus si tu en avais parlé, toi.
C'est toi qui en as parlé.
C'est moi qui en ai parlé.
Elle se rappelle plus.
Bien. Non, je te teste.
Je croyais que tu picolais.
Sévère. Bon. Donc, Alabama Check est revenu avec un deuxième album, Sun and Color, beaucoup plus rock garage que le premier, qui lui était plus axé sur la soul. Quasi un peu rhythm and blues, mais très soul. Celui-ci a une tendance plus électrique, plus énervée, et ça donne vraiment pareil,
cas,
très bon album.
Très bonne critique dans les revues soul et blues.
Ouais, du coup, ils ont un petit peu pointé le bout de leur nez un petit peu partout, même sur les médias en France. Je crois qu'ils sont tournés sur les plateaux télé français. Donc c'est une bonne chose. C'est pas évident sur des groupes comme ceci. Ensuite, l'Alcalixico, on en a parlé le mois dernier. Tobias Jesu.
Qui s'appelle
Edge of the Sun. D'accord. Donc, très métissé, avec beaucoup d'ambiance latino, arabien, espagnol. Pour voyager, c'est un bon album d'été. Le Tobias Jesso, que tu m'as fait découvrir. Goon, qui est juste une petite merveille, piano-voix, côté Lennon. C'est
crétin. Goon, ça veut dire crétin.
Toi-même.
Ça colle très bien avec sa musique.
Non, c'est très, très, très charmant. Mm-hmm. Ça donne, pour ceux qui aiment John Lennon et le reste, c'est...
Ouais. Beaucoup de piano, c'est
beaucoup
sympa.
De piano, piano-voix. Et enfin, le Matthew E. White, parce qu'il fallait bien finir par quelque chose. Et c'est pas un album qui est extraordinaire parce qu'il est quand même assez similaire au premier.
Plus homogène peut-être.
Plus homogène et bon après ça reste toujours agréable parce que c'est un mec qui touche très bien sa bille. À la base il était dans la production de disques jazz.
Il est toujours producteur, il vient de produire deux ou trois albums là ces temps-ci. Voilà. Matthew E. White qu'on a beaucoup diffusé.
Surtout sur le premier album. Le premier album était une véritable merveille, le deuxième est bien mais un peu plus similaire on va dire.
Merci, Carole, pour tes choix. Alors, c'est moi qui m'y colle. L'album qui a le plus tourné sur les platines de Chant Libre cette année, ce n'est pas celui que je mettrai en tête de mon top 9, parce que j'ai gardé la 10e place pour le disque inconnu. C'est quand même celui qui a le plus tourné, c'est l'album de Heavy Buffalo. Son titre, « At Best Cuckold ». Et ben, si vous écoutez l'émission, vous connaissez ce titre.
too responsible. Once again, I'm charted in unknown lands. What would a family do? Sick with me, calling me day and night. And I won't give in yet. And I won't give in yet. And I won't give in yet. Something convinces to give, while another part of me knows it's wrong. Setting free. I never saw it that way. Such surprises limit me to my bed, shaking off the dust. Days, and you had to come back. Come what may, bring me to my faith again. Come back to me. Too distracted to strength, it comes with less frequency. Oh, so sacred is your love that you can't decide which way to turn. What does that say about you?
Heavy Buffalo, c'était l'un des choix que j'ai fait pour cette année 2014-2015 en matière de musique. Alors, Carole, tu as présenté ton top 10.
Ouais.
Moi, je suis allé jusqu'à 9 parce que je déteste qu'on me fasse choisir mes 10 albums préférés parce que j'ai toujours envie d'en mettre 11 ou 12. Donc voilà, j'ai gardé la dernière place pour le disque que je ne veux pas choisir. En tête de mes choix, disque que j'écoute le plus en ce moment et avec lequel je m'attraque un maximum sur les ondes de Couleur FM, c'est le Dominika et l'erreur qui, à mon avis, est un petit bijou. Ça m'ennuie un peu parce que j'ai dit la même chose de son précédent il y a 2 ans.
Qui était très très bon aussi, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un artiste qui ne déçoit jamais.
Du coup, j'ai très peur d'être déçu par le prochain, c'est quand tu aimes beaucoup quelque chose, tu as peur que le niveau baisse. Voilà, Dominika, numéro 2, le Heavy Buffalo que l'on vient d'entendre. Heavy Buffalo, c'est un petit genou là aussi, qui a fait 1 ou 2 albums excellents et qui vient de décider de laisser tomber la musique parce que décidément, le showbiz, c'est pas son truc. Voilà. Tant pis, il nous reste au moins Neil Young. On t'entend. Troisième, les Decemberists, What a Terrible World, What a Wonderful World. Decemberists, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Les auditeurs de Champ Libre connaissent. À mon avis, c'est un groupe qui mériterait d'être plus connu que ça. Mais bon. les mystères du showbiz, encore une fois, restent impénétrables pour la plupart d'entre nous. Mark Lanegan, Carole, en numéro 4.
Moi,
Phantom Radio.
J'attends juste qu'il fasse un disque de Noël, Mark Lanegan, et je le mettrai dans mon top.
Ah, oui. Alors, avec une pochette dessinée par, je ne sais pas qui, mais avec des petits vampires, des choses comme ça.
Et bien, pourquoi pas par Johannes Farr.
Voilà. Ah ben oui. Donc, Mark Lanegan, Phantom Radio, très bon disque. La découverte pour moi de l'année, le groupe Pond. Alors, Pond sont des Australiens. C'est Tame Impala sans le chanteur. Raison d'en marre du chanteur. Ils font leur album sous le nom de Pond. L'album s'appelle Man It Feels Like Space Again. Moi, ça m'a renvoyé directement fin 60 avec une musique complètement hallucinogène. Génial. Pond, numéro 5. Numéro 6, mon copain, le grand Little Bob, avec un album qui s'appelle All In. Son nouveau groupe s'appelle les Blues Bastards. Et ben, peut-être qu'un jour, on va se rendre compte qu'en France aussi, on a des Springsteen. Hein, j'exagère pas. Little Bob, c'est un mec qui a quand même été accompagné par les musiciens de Willie DeVille, de Springsteen, etc. Il est reconnu aux États-Unis pour ce qu'il est. Et en France, on va attendre qu'il casse sa pipe. Little Bob, numéro 6. Numéro 7, on y est presque, Jean-Louis Murat. On a une Auvergnat.
Lui c'est bien aussi. Qu'il sorte un album par an aussi.
Babel, qui s'appelle son album. Vous l'avez écouté, je suppose.
Bien sûr.
Le Murat, il y a des chansons qui tournent pas mal. Il a enregistré ce nouvel album avec le Delano Orchestra. Et justement, Delano, Monsieur Delano, vient de sortir un album solo chez Vicious Circle, qui est très très bon également. Donc ça veut dire qu'il y a une scène quelque part en Auvergne, du côté de Clermont-Ferrand, et qu'on...
Mustang.
Voilà, on pourrait... Oui, alors ça, on en reparlera à Carole de Mustang. Ils sont parisiens maintenant, Mustang.
Oui, mais à la base, ils sont de Clermont.
Ouais, ça leur a passé. Il faudra aussi qu'on se pose la question, où sont-ils passés, d'ailleurs?
Dans mon cœur, moi je les aime.
D'accord. Jean-Louis Murat, numéro 7 de mes choix. Le numéro 8, Joan Asherton, Diamonds, c'est le nom du groupe. Joan Asherton, c'est un pionnier de la musique rock garage en France. Il avait viré folk les dernières années. Il revient avec des guitares électriques Rickenbacker carillonnantes. Et son dernier album est excellent. Moi, ça me fait penser à Elliot Murphy également. En France, on a d'excellents musiciens. Alors, Elliot Murphy, c'est un Américain qui s'est installé en France. John Asherton, c'est un pseudo. Il est réellement normand, mais réellement excellent aussi. Donc, je vous propose d'écouter cet album. Je pense même, je m'adresse aux auditeurs de Champs Libres, je pense même... inviter le bonhomme, ou en tout cas inviter le producteur qui est quelqu'un qui habite sur la région lyonnaise, pour venir nous parler de ces gens qui enregistrent, qui distribuent, qui passent pas la moitié de leur vie, mais toute leur vie, à essayer de faire la promotion de cette musique. Et puis le numéro 9, je vous le donne en mille, c'est le dernier Bob Dylan, ça s'appelle Shadows in the Night. C'est un album dans lequel l'ami Robert... nous susurre les chansons qu'il écoutait lorsqu'il était gamin à la radio. Et moi, je me dis, finalement, c'est vrai que quand j'étais gamin, quand j'étais malade, quand j'étais à la maison, il y a la radio qui tournait, j'entendais quoi ? J'entendais Tino Rossi, etc. Donc peut-être qu'un jour, j'enregistrerai un album de reprise avec Tino Rossi, Rick Azaray, je ne sais pas qui. En tout cas... Bob Dylan l'a fait, il n'est pas le seul. Il y a plein d'artistes de cette époque-là qui, avec l'âge, jettent un regard en arrière sur la musique qui les a influencés. Je trouve ça touchant. Et puis Dylan se force un peu pour chanter
ça
ici.
Ça s'entend.
Voilà, Bob Dylan, Shadows in the Night, très bon disque. À écouter calmement avec une boisson
une
non
tisane,
alcoolisée.
Quoi.
Voilà. C'était mon top à moi. Ton top à toi en matière de cinoche.
Ah, bon, je vais pas faire un top, un gros top. Hein. Je pense que voilà, je vais m'en tenir à 2-3 gros titres intéressants qui m'ont marqué personnellement. Comment passer à côté quand même du premier gros choc qui est sorti dans une indifférence quasi générale? C'était le troisième film de J.C. Chandor, qui avait déjà magistralement décrit la crise des subprimes dans Margin Call, et là qui ressort un super thriller, A Most Violent Year, avec Oscar Isaac. Très très grand policier. Alors, d'aucuns parlent, le comparent un petit peu à James Gray. Je trouve que c'est pas idiot, c'est moins stylisé, moins maîtrisé quand même. Mais on sent quand même que le réalisateur qui a seulement 34 ans, hein, ou 33 ans, qui va sur ses 34 ans, a déjà une filmographie, une aisance esthétique, une maîtrise dans les mises en scène qui sont époustouflantes. Et du coup, voilà, moi je tablais déjà sur ce premier gros choc cinématographique à voir de toute urgence. Le deuxième, bien sûr. Comment oublier le film de Paul Thomas Anderson et son adaptation de Pynchon, Inherent Vice. Alors, il sort bientôt en DVD, il sort en juillet.
Semaine prochaine, oui.
Ah ouais, il sort là, dans deux semaines, tout début juillet, et franchement, ne perdez pas une miette de ce film. Il faut vraiment voir ce délirium.
Surtout qu'on l'attend toujours à Bourgoin-Jallieu.
Oui, le film n'est pas passé à Bourgoin-Jallieu.
Non, il
passe à Saint-Jean-de-Bournay. Il est passé à Saint-Jean-de-Bournay en version originale. Sous-titré en plus.
Mais, quoi, la programmation?
Mais pas du tout à Bourgoin. Oui, bah, des fois, il y a des trous d'air. Enfin, bon, bref. Mais très, très grand film et à voir de toute urgence. Et je gardais le top, mon petit top 3 de sortie ciné quand même pour la dernière Fury, c'est le cas de le dire, de ce dernier mois, qui marche très bien à ma grande et agréable surprise. C'est le Mad Max de George Miller, de voir George Miller à 70 ans.
Donc, toi, on a parlé
le mois dernier. Oui, ça reste un choc. Je suis allé le voir deux fois depuis, et c'est 70 ans, le réalisateur australien, pour faire un film d'une telle furie, d'une telle envie, même de cinéma, je trouve ça époustouflant et superbe.
C'est le Viagra qui fait ça.
C'est ça, mais comme quoi le Viagra a des vertus... voilà. Bref.
En matière de DVD.
Oui, en DVD. Alors, trois titres aussi, surtout les deux coffrets Herzog, hein, avec les rééditions en copie restaurée de
Werner Herzog.
Voilà, donc Werner Herzog avec les vacances qui se profilent. Donc, il faut regarder ces odes au voyage et à la découverte de ce monde. C'est vraiment excellent. Je pensais aussi au Solitaire de Michael Mann. Qui a sorti le mois dernier un film très
plus
moyen.
Ancien.
Oui, le plus ancien, oui, de 1980. Il a sorti Hacker il y a un mois et demi, qui était pour le coup très très moyen. Et ben là, voilà, il vient de sortir en DVD Le Solitaire, et il faut redécouvrir ce petit bijou. Et enfin, je dirais un bon polar français qui est sorti il y a un mois, c'est L'Affaire Esquin, sur la traque de Guy Georges avec Raphaël Personnaz. C'est vraiment un film à découvrir. Très bonne surprise, très très
bon. Guy Georges, le tueur en série.
Exactement. Voilà, donc le très très bon polar français, une excellente surprise et à découvrir vraiment. Donc voilà pour mes petits top 3.
On va passer du côté du métal.
Du métal extrême même, hein. On va écouter un morceau d'un groupe qui s'appelle Death. Le morceau s'appelle Infernal Death et est issu de l'album Scream Bloody Gore. Préparez vos oreilles.
Yeah!
Voilà, c'était Def et le morceau Infernal Def. Vous en serez douté, on va parler de Def Metal. Croyez-moi, pendant 3 minutes, je vais prononcer le mot Def beaucoup de fois. Donc préparez-vous.
C'est interdit, hein, Def. Normalement.
Alors, le genre, il est créé dans les années 80-90. Donc avec un album précurseur, mais c'est pas du Def Metal, c'est l'album Rain in Blood du groupe de thrash metal Slayer, dont on avait déjà parlé il y a plusieurs émissions de ça, sorti en 1986, et il faudra attendre un an avant que sorte l'album dont le morceau que vous avez écouté est extrait, donc Scream Bloody Gore, qui est lui le premier album de Def Metal. Donc avec le groupe Def qui a donné son nom au genre, on s'en doutera. Donc qui était actif donc des années 80 jusqu'à 2001, qui s'est arrêté à cause de la mort de Chuck Schuldiner, le chanteur qui est décédé d'un cancer. Cependant, le groupe s'est reformé pour quelques apparitions, notamment au Hellfest 2014. Donc qu'est-ce que le Def? Vous en avez eu un aperçu typique précédemment. Alors, c'est une rythmique très rapide, des guitares accordées quelques tons plus bas. Mm-hmm. À la batterie, on peut noter une caractéristique qui s'appelle le blast beat, donc c'est-à-dire une sorte de roulement de batterie très très rapide, donc qui dénote encore une fois une rythmique très rapide, un chant guttural, c'est le cas de le dire. Alors le chant guttural, c'est il y a plusieurs types, il y a donc le growl, donc le hurlement, le grunt, donc le râle. Voilà, il y en a plein de styles. Et
moi, ça, il y a un groupe que j'adore, dont je passe systématiquement tous les albums dans l'émission. C'est un groupe qui s'appelle Melvins. Là aussi, les guitares sont accordées un ton plus bas, très très lourd, très très lent, avec ce type de chant. Tu connais ce groupe? Ça rentre dans cette catégorie-là ou...
Non. Parce que, en fait, le death metal, c'est vraiment une culture de niche avec ses codes, les vestes à patch qu'on trouve déjà dans le metal en général. Mais il y a aussi... Donc c'est un genre qui est né quand même aux États-Unis avec des groupes souvent américains. Mais encore une fois, c'est comme pour le black metal, la plus grosse scène, ça reste
quelque part
en Scandinavie.
Là-haut.
En Scandinavie.
Qui par exemple comme
Alors pour les citer des groupes anglophones, on a Possessed, Morbid Angel, Napalm Death et Cannibal Corpse. Voilà, des noms poétiques.
Mm-hmm. Côté du cinéma, on a Massacre à la tronçonneuse.
Justement,
Cannibal Holocaust.
Je pense qu'il faut savoir,
l'imagerie, elle vient de là.
Justement, ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que le Def, ça adopte vraiment une posture de film d'horreur. Et c'est emprunté donc tous ces films de série Z qui sortaient en VHS à l'époque, tout ça. Ouais. Et donc ça parle, oui, de mort. Donc, la plupart du temps, il faut prendre ses paroles au second degré, même si certains groupes sont un peu plus sérieux, mais ça reste jamais dans du concret. Rassurez-vous, ces gens-là ne tuent pas vos enfants.
Ils ne sortent pas le soir du cimetière.
Non, voilà. Et en Scandinavie, on a des groupes de death mélodique. Oui, ça existe. Donc c'est comme du death, mais avec ils privilégient l'harmonie. Mm-hmm. Enfin, donc avec des harmonies, des morceaux un peu plus orchestrés. Donc là, on peut citer Children of Bodom et In Flames. Donc ça reste deux groupes très connus dans la scène métal. Et justement, on va écouter un groupe suédois qui s'appelle Amon Amarth, des fans de Tolkien, hein, puisque...
Oui, c'est ce que...
Amon Amarth, c'est le nom d'une montagne dans le Seigneur des Anneaux. Donc ça s'appelle même du Viking Metal. Donc, puisqu'ils prennent une imagerie viking. D'ailleurs, le morceau s'appelle Guardians of Asgard. Et c'est un groupe qui me tient très à cœur. C'est un de mes groupes de métal préférés. Donc, on va écouter ça tout de suite. L'album s'appelle Twilight of the Thunder God. Il est sorti il y a quelques années. Ils en ont fait un nouveau. Un peu moins death metal, plus dans le genre heavy. Mm-hmm.
Il y a toujours l'heroic fantasy qui...
Toujours, oui. Ça reste un thème très important, surtout pour Amon Amarth. Donc le morceau s'appelle « Guardians of Asgard ».
C'était la dernière rubrique de cette année consacrée au métal.
Eh ben, Damien. Oui.
Moi, j'avais envie de poser une question au plus âgé qui se trouve autour de la table. Damien nous a parlé toute l'année de musique métal. Quand j'étais plus jeune, nettement plus jeune, on n'appelait pas ça comme ça. Ça s'appelait du hard rock.
Du hard rock, ouais.
Jo, tu as écouté ce type de musique, cette famille
hard
de musique
hard rock, oui. Disons que mon frère était plus âgé, enfin, est plus âgé de 7 ans que moi. Donc, il en écoutait, alors que moi, j'avais 6-7 ans, il écoutait allègrement dans la chambre d'à côté là, cette musique-là. Donc, du coup, ça a éveillé effectivement ma curiosité.
C'était quoi les groupes?
Iron Maiden, Def Leppard, Motorhead et Tutti Quanti. Donc, c'était.
Donc ça, c'est les années
80. Ouais, milieu des années 80.
Donc, Carole, toi qui es nettement plus jeune. Tu as écouté ce type
J'ai
de
pas
musique,
curiosité, j'ai écouté, mais les plus soft en fait. J'aimais bien Def Leppard, Alice Cooper, ce genre
un
de
truc
choses.
Soft, ouais.
Bah oui, c'est soft. Mais après, les Cradle of Filth, ce genre de mouvance.
Tu écoutais quand tu avais 15-16 ans.
Et bah, Def Leppard et Alice Cooper.
D'accord.
Et les Berruriers Noirs. Mais on n'est plus dans la même mouvance.
Bah pourquoi pas. parce que moi, pour moi, le premier groupe de hard, c'est, je sais pas, Deep Purple. Hein, le 72, 70, hein, Deep Purple,
ouais.
Bon, les Who faisaient beaucoup de bruit à l'époque, mais
ouais,
c'était,
mais
pas,
c'était
du
pas le même style. Ouais.
Led Zepp est arrivé après, mais c'était quand même.
Non, mais Deep Purple, c'est ouais. Simple, ouais, c'est ça.
Deep
ouais.
Purple, Black,
ça
Sabbath, Black Sabbath qui arrivait.
Bah, Black Sabbath, c'était moins hard, ça ressemblait plus à du doom metal en fait, ça restait des ambiances sombres, ouais.
Sauf
lentes.
Que, d'accord, on n'avait pas tous ce vocabulaire à l'époque.
Ouais.
Déjà, le mot metal est arrivé après. Hein. Je pense à cause d'un groupe qui s'appelait Blue Oyster Cult. Et puis, il y a des grandes empoignades dans le courrier des lecteurs de Rock'n Folk entre le hard, le metal et tout. Au bout d'un moment, on finissait par plus savoir
de
quoi on parlait.
D'ailleurs, même les premiers groupes de metal refusent en quelque sorte cette étiquette. Hein,
Alors, question courte, et puis on laissera la parole à Carole qui va nous parler de son prochain titre. Vous savez, la grande question, qui est le premier groupe ou premier artiste qui a enregistré un titre metal? Alors, Damien, pour toi?
Bah, pour moi, ça reste Black Sabbath, hein. C'est mon groupe de metal préféré.
J'ai pas assez de culture.
Tu passes, Carole?
Je passe, ouais.
Le tout premier disque metal?
Oui.
Qui est considéré
pour
comme
toi,
étant
oui.
Metal?
Ah, premier
pour
morceau?
Moi, je dirais, le premier morceau que j'ai vraiment écouté en tant que metal, c'est du Alice Cooper.
D'accord. Alors,
je sais pas les titres exacts, mais...
Damien, toi qui es le pro de la chose, il paraît que Helter Skelter des Beatles est le premier titre.
Metal, j'aurais pas dit ça, mais oui, déjà, enfin oui, c'est quand même un précurseur, surtout concernant l'histoire aussi du morceau, hein, les tragiques conséquences, Charles Manson et tout ça. Ça a effectivement une aura très métal.
Ce qui permet de faire le lien.
Oh, c'était qu'est-ce que t'es fort.
C'est quand même beau. Hein.
C'est inouï, je crois que c'est ta plus belle transition depuis que je te connais.
En fin d'année. Oui, donc tu voulais nous parler du mec tout blanc.
Du Marilyn Manson.
Voilà.
Effectivement, donc, je l'ai évoqué dans mon top 10. Donc je ne l'avais pas chroniqué celui-ci lors de la sortie. Par contre, il méritait effectivement le détour, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et le single qui a vraiment cartonné, c'est Third Day of a Seven Day Binge. On retrouve.
Qui se traduit par.
Je te laisse la passe.
Hein, non, j'ai pas envie de vomir.
Eh ben bravo. Bah, non, mais je te félicite. Donc du coup, moi, je vais pas tenter d'écorcher son titre en le traduisant. On va le laisser tel qu'il est. Donc l'album s'appelle The Pale Emperor. Et on retrouve effectivement sa façon de chanter à la fois comme étant un râle et quelque chose de très séduisant, et avec une rythmique derrière qui est très entêtante. Et c'est un titre qui vous reste pour de bon jusqu'à la fin de la soirée. Donc c'est pour ça que je vous ai réservé Third Day of a Seven Day Binge.
We'll be right back.
Marilyn Manson, qui s'est fait porter pâle après une grosse biture.
Voilà, hein,
d'après ce que
ça.
J'ai cru comprendre. C'est pour ça qu'il est tout blanc, le mec. On va terminer ce champ libre avec une toute petite séquence concernant les trucs imprimés sur du papier de cette année 14-15. Moi, j'ai noté 4 bouquins, j'en ai lu beaucoup plus. Mais les livres qui m'ont marqué cette année, alors il y en a un dont j'ai déjà parlé, c'est le Muddy Waters, la biographie de Muddy Waters par Robert Gordon aux éditions Rivage Rouge.
Très bonne édition, ouais.
Très beau livre. Et puis en plus, Muddy Waters, c'est pas n'importe qui, ça vaut quand même le coup, lorsqu'on écoute de la musique rock, de lire cette chose. Hein, il n'y a pas si longtemps que ça que certains travaillaient encore dans les champs de coton. On aurait presque pu vivre cette époque-là. Deuxième livre qui m'a marqué et sur lequel je reviendrai depuis, c'est le Joyce Carol Oates. Il s'appelle Maudit. Elle raconte l'histoire des États-Unis à travers une histoire gothique, une histoire de vampire. Alors, c'est le 4e volume d'une tétralogie. Joyce Carol Oates qui m'a énormément déçu après que j'ai lu le livre, que je trouve excellent, qui m'a énormément déçu parce qu'elle fait partie de ces écrivains américains qui ont signé une pétition contre Charlie Hebdo. Troisième livre que j'ai envie d'offrir à tous les gens que je rencontre, Le pas pleurer de Lydie Salver au Seuil, prix Goncourt, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc ça raconte une période de l'histoire espagnole qui me tient à cœur, à savoir la République espagnole, juste avant que les troupes franquistes y mettent fin.
Et la complexité en plus de cette guerre d'Espagne qui met
les divisions à l'intérieur d'une même famille, les pressions... Ouais. Une Espagne qui sortait tout juste du Moyen-Âge et qui se retrouve comme ça.
Le meilleur prix Goncourt depuis très longtemps, enfin pour moi en tout cas.
Excellent bouquin. Et puis le 4e, je parlais de Charlie Hebdo tout à l'heure. Alors les habitués de l'émission cette année savent que Charlie Hebdo existe toujours. On en parle chaque semaine. J'en parlerai pas cette semaine parce que j'ai oublié le numéro. Il y a une excellente couverture sur un sujet qui me tient à cœur aussi. Vous savez, ces mecs qui dorment sur des rochers quelque part en Italie et qu'on essaie de faire disparaître en les chargeant de force dans des bus. Alors, je ne sais pas où on les met. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là, à part crever de faim et venir frapper à notre porte? Voilà, c'est ça la couverture de Charlie Hebdo. Je ne veux pas dire de conneries. En tout cas, moi, ça me fait presque autant envie de vomir que l'habitude de Marilyn Manson. Le 4e bouquin, eh ben justement, je gardais pour la fin, c'est le Catharsis de Luz, qui, justement, après les événements, se retrouve face à une feuille de papier et avec un stylo dans la main, il n'arrive plus à dessiner. Et c'est une sorte de psychanalyse graphique qu'il fait pour essayer de retrouver le goût de dessiner, le goût de parler. Alors, il explique que, heureusement qu'il y avait sa femme. Il est arrivé en retard à la réunion du jour parce qu'il faisait l'amour avec sa femme. Et ça, c'est le truc qui le traumatise encore aujourd'hui. Heureusement, elle est là pour le sortir de la chose. Voilà, Catharsis de Luz. Luz qui abandonne Charlie Hebdo parce que du coup, il ne peut plus dessiner. Il n'a plus envie de dessiner ça. Et c'est un album qui est édité par Futuropolis. Voilà les livres dont j'avais envie de parler et qui, moi, m'ont touché cette année. Est-ce qu'il y a d'autres livres que vous avez lus? Allez, un titre, Damien.
Moi, rien de récent, j'en ai bien peur.
Tu lis que des vieilles choses?
Oh non.
Ah, moi, je reviendrai. Alors, c'est pas un roman, c'est une BD aussi. Je voulais revenir sur Le Caravage de Milo Manara, donc pour le coup, qui retrace la vie de ce peintre en 2 volumes. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un volume de sortie. Et c'est un très très beau travail graphique.
C'est le retour de Manara parce qu'il n'a pas fait grand chose depuis.
Ah, ça fait un moment depuis ses chères créatures féminines,
le déclic,
le parfum de l'invisible, etc. Bon,
donc ça n'a rien à voir. Bon, y a
ça n'a strictement rien à voir. Oui, mais ça n'a strictement rien à voir. Là, il s'attache vraiment à l'histoire et le parcours de ce peintre à travers deux pans de sa vie, et c'est vraiment très très beau, très très beau livre en plus.
Carole.
Dans l'édition Rivage Rouge, ils ont fait aussi l'autobiographie de Billie Holiday. Donc il y a une artiste qui est immensément géniale.
Un biopic
qui arrive, et ils ont réédité notamment Lady in Satin dans un coffret qui est complètement somptueux avec des prises en live, ce genre de choses. Je l'ai reçu il y a deux jours, c'est juste une merveille. Et donc voilà, pour les amoureux du jazz et notamment d'une voix qui est pleine d'émotions, pour moi c'est la plus belle voix du jazz, celle de Billie Holiday, et effectivement son bouquin est une petite merveille. Et les livres de l'édition de Rivage Rouge sont toujours magnifiques, belle couverture, très bien écrit, hyper accessible, même pour des personnes qui ne sont pas forcément au fait du jazz, même sur Muddy Waters. Je pense qu'on n'est pas obligé d'être à fond sur le blues.
Oui,
pouvoir,
c'est très très bien écrit.
C'est très bien écrit, très, très adapté. Et puis en BD, il y avait le dernier Johann Sfarr sur ses carnets. Moi, je suis une grande fan de Johann Sfarr parce que j'aime beaucoup l'homme, j'aime beaucoup sa fragilité, sa sensibilité, sa sincérité. Et c'est quelqu'un qui va aborder la religion, mais avec tout ce que ça comporte.
Alors, il y a un volume du chat qui arrive.
D'accord, du chat du rabbin.
On croyait que le chat du rabbin, ça y est, c'était fini, il avait réglé la chose. Non, le chat est toujours là. Je crois que le thème, c'est la femme. Voilà, donc on en reparlera très certainement, Carole. On parlait de biopic. Il y a le biopic sur Jimi Hendrix qui est sorti, que je n'ai pas encore eu le temps de voir, qui s'appelle All By My Side.
Oui,
et il y a un biopic sur Amy Winehouse qui arrive, qui paraît-il est excellent.
Et
on annonce
sur
un biopic sur les Kings.
Celui sur Brian Wilson aussi.
Brian Wilson également, donc voilà, préparez-vous à la vague biopic.
À voir aussi le documentaire sur Kurt Cobain, qui est vraiment excellent. Le début est un petit peu moins intéressant parce qu'il va parler de son enfance. C'est pas passionnant, mais à partir du moment où on atterrit sur l'adolescence, c'est vraiment une source, et on comprend beaucoup de choses en ce qui concerne l'artiste. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est le mea culpa concernant Courtney Love, qui a longtemps été tabassée par les médias. Et donc, ce n'est pas elle le démon, contrairement à ce que tout le monde pense. Et donc, il y a une bonne remise à plat sur les relations de Courtney. C'est pas une raison. Le film est très bien fait. Tu l'as pas vu, donc tu en parleras lorsque tu l'auras vu.
Ça ne nous regarde pas. Merci Damien pour tes rubriques de cette année. Merci,
merci
Jo pour
merci
le cinéma.
Merci
Carole pour tes rubriques discographiques. Laurent pour la technique. On se retrouve la semaine prochaine avec les auditeurs pour l'avant-dernière émission de la saison, si je ne m'abuse. Et on termine cette émission avec le disque que vous subissez chaque semaine depuis 3 ou 4 mois, c'est le Dominica, il s'appelle L'Eléor, et le titre, Nouvelle Vague, décidément, on ne s'en sort pas. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Je ne t'apporterai que des nouvelles vagues, comme d'un autre pays, d'une autre saison. Sans que tu le demandes, j'annulerai certains noms, comme on vide le poison contenu dans la dague. Et tu pourras bientôt sortir de la maison. Pas un jour l'amour ne t'a pas relancé, pas un jour où tu n'as lutté contre le sort, qu'un amour de malheur t'avait jeté. Il t'envoyait encore des signaux de fumée. Je ne t'apporterai que des nouvelles vagues, des histoires envahies de points de suspension, la bouche délestée du poids de certains.